m'appelle Robert. J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur Radio Okapi en RDC. La montée des eaux du fleuve a provoqué des vastes inondations dans plusieurs provinces et aussi à Kinshasa, la capitale, où certains quartiers ont été submergés par les eaux. Selon les bilans dressés le 5 janvier dernier par le ministère des Affaires sociales, ces inondations ont causé au moins 300 pertes en vies humaines, plus de 43 000 maisons écroulées et plus de 1 300 écoles détruites. À cela s'ajoutent des centres de santé touchés, des marchés publics affectés et certaines routes impraticables. D'après la régie des voies fluviales, cette montée des eaux du fleuve Congo et des rivières de la RDC touche notamment les provinces de la Tchopo, la Mongala, l'Équateur, le Nord et Sud Ubangi, les Kwilu, le Maïndombe, le Congo central, la Lomami, le Kasai central, le Sud Kivu et la Chapa. Comment commentez-vous ces inondations causées par la montée des eaux du fleuve Congo et des rivières de la RDC? Comment y faire face? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi intervenir en direct en composant les 081-890-6330 ou les 081-890-4969. Paul Badianama est à la mise en nom de ce magazine. Blechin Dani est à la réalisation et la coordination. Au micro, c'est Marcel Ngomombala. À toutes et à tous, excellent condition d'écoute de ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Merci de rester fidèle au programme de Radio Okapi et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Pour commenter ces sujets, nous aurons en ligne le professeur Modeste Kisangala Moke. Il est hydroclimatologue. En attendant de l'avoir en ligne, on me fait signe qu'il est déjà en ligne. Professeur, vous êtes déjà en ligne. Bonjour, professeur.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi. Bien sûr, je suis déjà en ligne.
Voilà, merci professeur d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes hydroclimatologue, voilà. Il y a cette montée des eaux du fleuve qui a provoqué des vastes inondations dans plusieurs provinces et aussi à Kinshasa, la capitale, où certains quartiers ont été submergés par les eaux. Et selon les bilans dressés le 5 janvier dernier par le ministère des Affaires sociales, ces inondations ont causé au moins 300 pertes en vies humaines, plus de 43 000 maisons écroulées et plus de 1 300 écoles détruites. À cela s'ajoutent des centres de santé touchés, des marchés publics affectés, mais aussi ces inondations ont rendu certaines routes impraticables. Et d'après la régie du voie fluviale, plusieurs provinces du pays sont touchées par ces inondations, de suite de la montée des eaux du fleuve Congo et de rivières de la RDC. Et on cite les provinces de la Tchopo, la Mongala, l'Équateur, le Nord et le Sud Ubangi, les Kwilu, le Maïndombe, le Congo central, la Lomami, le Kasai central, le Sud Kivu et la Chapa. Professeur, vous êtes hydroclimatologue. Cette première question d'entrée de jeu, qu'est-ce que, d'après vous, peut expliquer cette montée? On parle d'une montée exponentielle des eaux du fleuve Congo et aussi de certaines rivières de la RDC.
Merci beaucoup pour la question. Et la montée des eaux du fleuve Congo est directement liée au phénomène changement climatique. Nous vivons l'ère du changement climatique. La RDC a une superficie de 2 345 000 km², mais au moins 70% de cette superficie est occupée par des forêts. Et la forêt, c'est une source, n'est-ce pas, des pluies par rapport à l'évapotranspiration. Donc notre pays a une lame d'eau qui est très très importante. Mais avec le phénomène de changement climatique, cette augmentation des pluies a sensiblement amplifié. C'est ce qui fait que les eaux du fleuve Congo sont maintenant en hausse. Comme vous venez de le citer, c'est pratiquement toute la République démocratique du Congo qui connaît à ce moment des pluies importantes. Donc la lame d'eau étant importante, cela doit influer directement sur les eaux d'écoulement. Étant donné que les nappes aquifères qui reçoivent les très grandes quantités de pluie sont submergées, n'est-ce pas, et les surplus de pluie qui tombent sont voués au ruissellement. Et quand on dit ruissellement, tout va tout droit dans les exutoires qui sont les différents cours d'eau de la République démocratique du Congo, et tous donnent sur les fleuves Congo, et les villes qui sont les longs du fleuve Congo sont tous submergées par les eaux des crues.
Alors, professeur, c'est un phénomène qui va perdurer. Est-ce que c'est un phénomène cyclique?
Non, ce phénomène doit perdurer pendant un ou deux mois en attendant que les précipitations diminuent. Dès lors que Kinshasa se trouve en aval et il y a plus de précipitations en amont, et long de cette inondation pourra arriver ici si les pluies diminuaient, nous allons vivre aussi que voir les eaux commencent à se retirer lentement. Mais Kinshasa sera encore submergé même jusqu'au mois de février. On va continuer à parler des inondations toujours à Kinshasa, parce que vers Kisangani continue à pleuvoir et la montée des eaux continue. Or, les eaux pour quitter Kisangani pour arriver à Kinshasa, il faut prendre tout au moins un mois plus.
Alors, avec tout ce qu'on connaît comme problème d'urbanisation dans nos villes, dans nos cités, pour ces genres de phénomène, lorsqu'il y a une pareille montée des eaux, professeur, comment peut-on y faire face?
Alors, pour faire face, ça c'est le problème de l'autorité du gouvernement. Il faut qu'il y ait un plan de contingence. À Kinshasa, la situation est tout à fait particulière. Vous voyez, ce genre d'inondation que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui a eu lieu en 1961, où le fleuve a atteint son niveau record de 6,26 m. Et aujourd'hui, on est déjà proche à atteindre ce niveau-là. Et vous voyez, 61 jusqu'à aujourd'hui, ça fait au moins 63 ans qu'on n'a plus connu ces phénomènes. Et pendant les 63 ans, les lits majeurs du fleuve Congo n'étaient pas occupés. Actuellement, ces lits sont occupés. Les gens croyaient que le fleuve ne viendra plus occuper son lit, et les services de l'habitat, les services d'urbanisme ont loti le long du fleuve Congo. Or, c'est une chose qui ne devrait pas se faire. Ils l'ont fait, mais aujourd'hui, voilà les conséquences. Et on déplore aujourd'hui, comme vous venez de le dire, les avenues inondées, les maisons inondées, avec des pertes en vie humaine en termes de 300 personnes déjà décédées. C'est anormal. Ce n'est pas bon. Donc, ce qu'on doit faire, après la décrue, il faudra que le gouvernement puisse prendre des dispositions pour que on puisse déclarer cette zone-là une zone non édificandi, pour que les gens ne puissent plus y habiter et chercher à passer à l'expropriation, ou soit chercher à mettre une zone tampon que les gens ne peuvent plus construire dans cette zone, parce que c'est qu'on a vécu, si ça peut encore se répéter, et ça sera encore beaucoup plus grave.
Voilà, professeur, on vous garde encore à ligne. Le temps pour nous de nous tourner vers les standards. Il y a des auditeurs qui aimeraient bien intervenir. Nous avons déjà Jackson Likungula qui nous appelle depuis Kisangani. Il y a Peter Maboudi qui est ici à Kinshasa. Et Franck depuis Vienne. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. Si vous êtes intéressé, vous voulez intervenir dans ce magazine Parole aux auditeurs, nous parlons de ces inondations qui, en tout cas, s'observent à travers tous les pays, et en tout cas dans plusieurs provinces du pays, et même ici, dans la vie province de Kinshasa. Je rappelle, le numéro d'appel, c'est les 081 890 63 30 ou les 081 890 49 69.
Parole aux auditeurs.
Jackson Likungula nous appelle depuis Kisangani. Bonjour Jackson.
Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à l'invité et bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire, Jackson, par rapport à toutes ces inondations, en tout cas qui ont provoqué, on en parle, en tout cas d'après les bilans dressés par le ministère des Affaires Sociales le 5 janvier dernier, ça a déjà causé 300 pertes en vies humaines, plus de 43 000 maisons écroulées et plus de 1300 écoles détruites.
Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'entrée de jeu, ces inondations causées par la montée des eaux du fleuve Congo et des rivières de la RDC sont tous des catastrophes naturelles qui se font souvent périodiquement, monsieur le journaliste, comme disait notre invité. Mais l'État reste muet devant ces inondations, alors que ce dernier est le tout premier acteur principal de protection des familles sinistrées. Il y a une question, monsieur le journaliste, qui m'arrive. Comment jusqu'à présent, le gouvernement n'envoie pas des gens pour vérifier les différents dégâts causés par ces inondations dans les différentes provinces touchées, monsieur les journalistes?
Mais là déjà, il y a déjà une cellule de crise qui a été constituée, en tout cas, avec sous l'égide du ministère des Affaires sociales et solidarité, et pour en tout cas essayer de faire face à toutes ces inondations. Il y a une cellule qui a été constituée pour faire face à cela.
Bon, monsieur les journalistes, on a dit qu'on vient pas, mais moi je prends les cas parce que moi je suis sur le terrain ici. Oui. On a constaté ici, policier à Noirite, qui est tout proche du fleuve Congo, on n'a vu rien du tout. Même les gouvernements provinciaux ici n'agissaient pas. Les enfants, il y a la route principale là-bas, ils ont changé même la route. Ils commencent à passer dans des avenues pour arriver dans des écoles. Prenons les camps, on avale du fleuve Congo, précisément à Isangi, le couvent des pères, monsieur les journalistes, ça se trouve jusqu'à présent sous l'eau. Mais les gouvernements provinciaux et le gouvernement central ne réagissait pas, ni même envoyer une équipe d'assistance, parce que nous en avons des sources sûres, que les gens sont en train de lasser la sonnette d'alarme pour réclamer un peu de visite, de peur que le médecin directeur de l'hôpital général d'Isangi puisse annoncer même les différents cas de diarrhée. C'est pourquoi, messieurs les journalistes, nous voulons que le gouvernement prenne ses responsabilités en main pour assister les familles causées.
Merci Jackson Lukungula depuis Kisangani. On va revenir à Kinshasa pour accorder la parole à Peter Maboudi. Bonjour Peter Maboudi.
Bonjour monsieur Marcel, bonjour à notre invité ainsi qu'à tous les de la radio Capé.
On vous écoute.
Oui, merci monsieur Marcel pour nous avoir associé à cet échange. Nous compatissons d'abord avec toutes les familles qui ont perdu le leur à cause de ces inondations, qui est un phénomène naturel également périodique. Monsieur Marcel, comme l'invité l'a dit et mon prédécesseur, je crois qu'il rêve de la compétence d'une part aussi de nos populations, également aussi de l'État ou de nos dirigeants que nous avons. Pourquoi je parle de la responsabilité de nos populations? Comme ici à Kinshasa, monsieur Marcel, donc, vous constaterez avec moi que les constructions qui sont ici à Kinshasa, généralement, ce sont des occupations des habitants qui passent non seulement par le service de l'État, mais également aussi de la population elle-même, en complicité avec les chefs de quartier, des localités, qui s'approprient le pouvoir de s'octroyer des terrains, justement, au détriment à l'issue ou à l'insu des autorités compétentes, qui, leur responsabilité est engagée par rapport à l'octroi même des titres parcellaires à ses compatriotes, sans pour autant effectuer des missions dans ces terrains pour savoir dans quelles conditions ses compatriotes ont acquis ces terrains pour habiter. Donc je crois que nous avons tous une responsabilité qui est partagée, d'une part nos populations, parce que nous qui devons d'abord s'assurer de notre propre sécurité en habitant dans des milieux appropriés pouvant garantir notre propre sécurité avant que l'État puisse intervenir. Et également aussi, il revient aussi de la responsabilité de l'État de s'imposer, d'assumer ses responsabilités pour garantir la sécurité à tous nos compatriotes. En ce genre de situation, M. Marcel, je crois qu'après ces événements, comme nous avons un gouvernement qui a toujours agi lorsqu'il y a des conséquences, il faut qu'on puisse nécessairement dégager les lits, comme l'invité l'a dit. Il y a des espaces où on ne peut jamais habiter. Nous avons le Congo est vaste. Pourquoi les gens préfèrent toujours habiter là où il ne faut pas habiter? Et qu'est-ce que l'État doit faire? L'État doit s'assumer à part la démolition de tous ceux qui habitent le long du fleuve, justement pour la ville d'abord de Kinshasa, également aussi au niveau de l'Équateur et d'autres provinces qui sont touchées, que notre population puisse comprendre que c'est un phénomène naturel, ça peut arriver. Et moi d'ailleurs, je loue Dieu parce que la montée des eaux ou les inondations ne viennent pas brusquement vers leur lit. Ça va des étapes. Mais si c'était par exemple l'eau de pluie, comme ça a eu le cas qui était fait la fois dernière, où l'eau vient brusquement et ça entre, je crois qu'on devrait déplorer autant de morts. Je crois qu'il revient à l'État de s'assumer après ces inondations. C'est déjà une conséquence. Comme nous avons un gouvernement qui agit par suite à des conséquences, il faut qu'on puisse démolir et aussi garantir des espaces où ces populations, nos populations doivent habiter. Justement, c'est un phénomène qui est naturel. Et comme nous avions toujours appris lorsque nous étudions le cours de géographie,
On disait toujours le débit du fleuve Congo est régulier. Il y avait une question qui était posée, pourquoi, et une autre qui s'est posée, comment. Comment, par rapport à cette question, le professeur nous apprenait que le débit du fleuve Congo est dit irrégulier, parce que comment? Parce que quand il pleut au nord, au sud, il y a la sécheresse, et quand il pleut au sud, au nord, il y a la sécheresse. Donc, par rapport à ce phénomène qui est d'abord étudié ou enseigné à nos enfants, nous devons comprendre que notre fleuve que nous avons a plusieurs affluents, et à travers ces affluents qui, d'ailleurs, contournent l'ensemble du pays, ces phénomènes devraient toujours arriver. Donc, nous devons tirer les conséquences qui sont là, et nous devons nous assumer que chacun puisse prendre ses responsabilités après ce que nous venons de constater.
Voilà, voilà. Donc Peter Mabudi, c'est ça pour vous, il faut tirer les conséquences, et même le professeur, notre invité, a parlé de cela, c'est-à-dire qu'il est grand temps, après, en tout cas, lorsqu'il y aura la décrue, d'essayer de prendre toutes les dispositions, qu'il faut essayer de revoir, vous l'avez dit, la façon de lotir les espaces à venir d'essai, de manière à ce qu'on n'assiste plus. C'est vrai qu'il peut arriver ces genres de phénomènes, mais du moins qu'il n'y ait pas autant de victimes et des dégâts matériels. Merci Peter Mabudi d'avoir appelé depuis Kinshasa. On va aller hors de nos frontières et ce sera à Vienne pour retrouver Franck depuis Vienne. Bonjour Franck.
Bonjour mon cher Marcel, bonjour à vous tous au studio, à tous les fidèles auditeurs de la radio Campi et aussi au prof, notre invité du jour.
Vous avez la parole Franck.
Oui, merci beaucoup. Par compassion, nous devons commencer par présenter nos mots de condoléances et de vive compassion à toutes les familles et personnes concernées par cette situation qui nous affecte tous. Puis, partout dans le monde, là où les gouvernements, là où les choses fonctionnent convenablement, chaque État qui se soumet à ses prérogatives régaliennes essaie toujours de prendre certaines dispositions en amont afin de préserver certaines situations désagréables. Mais comme Peter venait de le dire, c'est comme si chez nous, malheureusement, en dépit de toutes les interpellations et préventions qui se font souvent sur des différentes zones de radio, c'est comme si on ne fait que subir de cours de certains événements tels que ce qui se passe pour le moment. Et afin d'éviter de ne nous adresser qu'aux dirigeants et au gouvernement, il y a aussi lieu de rappeler la réelle part des responsabilités de nos compatriotes congolais sur place et de nos citoyens congolais dans notre ensemble de citoyens et de dirigeants. Parce que dans la plupart des cas, c'est comme si on ne se soumet même pas aux lois en vigueur sur toute l'étendue de la République. Et c'est chacun qui veut faire ce qu'il veut. Et personnellement, en suivant ce qui se passe là, je suis en train de me demander, nous avons autant de services étatiques respectifs en toutes ces matières impliquées dans cette situation, comme celui du plan urbanisme et habitat, environnement et prévention écologique, des services de topographie. Il y a autant de services étatiques, mais quelle est la réglementation vraiment réelle? Quelle réglementation étatique avons-nous réellement en vigueur pour tous ces ressorts évoqués et laquelle est correctement observée? Parce que il y a des catastrophes qu'on peut éviter en amont. Et les profs venaient de le dire pour la dernière fois que de telles inondations a eu lieu à Kinshasa, c'est en 1961. Mais entre 61 et maintenant, on pouvait quand même se mettre à étudier comment éviter ça pour le reste des temps. Mais chez nous, ce qui se constate, même là où on ne peut même pas construire, pas seulement à Kinshasa, je peux citer les noms d'autres villes, d'autres cités, quand on est là, quand on circule, quand on se promène, on voit seulement des maisons être construites, mais parfois on se demande est-ce que on a vraiment fait des études de faisabilité de ces milieux, de cet endroit, de ces terrains. Donc on ne tient même plus compte des normes topographiques, on tient compte de rien, on octroie des permis de construire, on construit, et quand il y a catastrophe maintenant, on se met à se plaindre. Mais quand il y a des catastrophes maintenant, l'État n'avait pas tenu compte des terrains à lotir, et les citoyens eux-mêmes aussi se permettent de tout faire. C'est comme ça que quand on est dans un pays où les lois de la République ne sont pas respectées, et par les dirigeants, et par les citoyens, on arrive à de telles situations. Ça fait très mal. Ça fait très mal de nous voir dans de telles situations, mais Il faut que nos dirigeants se mettent encore à revaloriser, à mettre en pratique toutes les lois de la République. Parce qu'aucun pays ne peut être régi sans loi. Aucun pays ne peut être gouverné sans l'application des lois. Nous avons des lois, on les applique selon des sauts d'humeur. Et quand il y a des situations comme ça, on appelle à l'implication de tel, on appelle à l'implication de tel, on doit vite faire, il y a des indifférences. Finalement, on se demande, nous avons une république avec des gens qui se disent chef, oui, mais en vue de quoi, en face de qui et par rapport à quoi.
Voilà, voilà Franck, comme l'a dit Peter Maboudi, il est temps qu'on puisse tirer les conséquences, en tout cas de tous les dégâts qui ont été causés par ces inondations, notamment avec cette montée exponentielle, comme on le dit, des eaux du fleuve Congo et de certains rivières de la RDC. On estime que ça sera l'occasion pour... en tout cas le gouvernant ou bien les autorités compétentes de s'épancher sur cette situation et surtout c'est le moment d'essayer de mettre en application moi je pense qu'il y a un plan d'aménagement urbain et notamment pour la ville province de Kinshasa, j'imagine également pour d'autres villes du pays, il faudra qu'on y pense de manière à ce que lorsqu'il y a de telles inondations qu'on ne puisse pas avoir autant de dégâts simplement parce que, vous l'avez dit, on respecte pas le texte, on construit comme on veut et tout ça c'est au mépris de la loi. Merci Franck d'avoir appelé depuis Vienne. On va poursuivre, on revient ici à Kinshasa et on va accorder la parole à Junior Bompongo. Bonjour Junior.
Bonjour Monsieur Jureur, meilleur vœu à tous les auditeurs de la radio Capi.
C'est Marcel Ngombo à l'antenne.
Voilà. Oui. Voilà.
On vous écoute, vous avez la parole.
Ah oui, j'ai suivi tous les intervenants qui m'ont précédé, je suis quand même flatté. Mais néanmoins, je vais ajouter un élément essentiel, parce que nous devons savoir que quand la nature veut reprendre sa place, on ne peut rien. Mais je pense que c'est là, cette situation aujourd'hui que nous sommes en train d'analyser, a été quand même déjà alertée. Vous avez, si vous lisez le communiqué du 27 décembre dernier du DGA, de la voie fluviale.
Oui, de régie de voie fluviale, oui. Oui.
Voilà. Donc, pour dire que notre gouvernement n'a pas vraiment le souci de prévenir certaines situations, alors que gouverner, c'est prévoir. Alors, pour vous dire ce qui est encore plus dérangeant quant à moi, c'est quoi? Aujourd'hui, si on peut lier cette situation à la crise climatique ou bien à les conséquences environnementales, mais on ne cesse de nous dire que la RDC est un pays solution face à ces fléaux. Alors, un pays solution, mais incapable d'endiguer la montée d'eau jusqu'à ce qu'aujourd'hui certaines familles sont privées de leur loyer à cause de cette situation. Vous allez vous rendre compte que la politique d'urbanisme, comme l'a dit l'intervenant de Vienne, et certaines lois sont toujours heurtées en RDC. Et je me demande à quoi bon s'attendre pour un gouvernement qui attend subir les événements sans pour autant les prévenir.
Mais vous avez suivi Junior Bompongo, il y a, je pense, le premier intervenant qui a dit les problèmes, c'est pas seulement le gouvernant, c'est vrai qu'il y a des fois de lotissement, des endroits qui n'en font pas, mais pourquoi également la population c'est permet d'acheter, par exemple, de construire les longs de cours d'eau, par exemple, tout en sachant que lorsqu'il y a ces phénomènes des crues, ils peuvent être ces populations qui habitent, qui ont construit les longs de cours d'eau, ils peuvent connaître ces genres de inondations.
Mais parce que nous avons un gouvernement, donc une puissance publique assez faible, je vous dirais même faible, en dessous même de zéros. Comment quelqu'un qui construit dans les endroits inappropriés et qui où l'État congolais s'impose et dit cet endroit ne peut pas être construit, comment un individu peut dépasser la force d'un individu peut dépasser celle de la puissance publique? Donc cela remet en cause, certes, la population aussi sa part de responsabilité, mais c'est l'État. L'État a le monopole de la violence et de la coercition pour pouvoir s'imposer et appliquer convenablement les lois. Donc, à cette situation, moi je pense que ce n'est pas donc une occasion pour nos dirigeants. Moi je crois que cette situation doit encore réveiller la conscience de nos dirigeants en premier. En premier, cette situation doit encore éveiller la conscience de nos dirigeants afin qu'ils puissent capitaliser, donc prendre ça comme une opportunité plutôt que de s'appuyer sur la politique de la déflation et certaines situations qui n'arrangent pas les pays.
Voilà. Donc, merci, Junior Bompongo, d'avoir appelé depuis Kinshasa. On va se rendre à Bukavu et on va retrouver Maître Uli Mwengu Kintungando. Bonjour, Maître.
Oui, bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Kapi et bonjour à tous les invités qui ont déjà intervenu dans cette présente émission.
Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces sujets, Maître, avec ces inondations qui ont été observées dans plusieurs provinces du pays? Il y a également le Sud Kivu, je pense bien, oui, qui a été touché, en tout cas d'après les monitorings de la régie des voies fluviales. Cette montée des eaux du fleuve Congo, des rivières de la RDC ont touché les provinces de la Tchopo, la Mongala, l'Équateur, le Nord, les Sidoubangui, le Kulu, le Maïndombe, le Congo central, la Lomami, le Kasai central, et également le Sud Kivu, d'où vous nous appelez.
Bon, merci beaucoup pour m'avoir accordé cette parole, monsieur le journaliste. Je ne sais pas si je peux dire le contraire de tout ce que mes prédécesseurs ont déjà dit.
Oui.
Mais ce que moi je peux souligner, d'abord, est que les inondations, les catastrophes naturelles, notamment les éruptions volcaniques, existent partout au monde. Mais ce qui pose beaucoup plus de problèmes, c'est au niveau maintenant des dégâts enregistrés suite à ces inondations ou catastrophes naturelles. Ailleurs en Europe, on a assisté en Turquie, partout au monde, et sans toutefois d'abord citer la RDC, toutes ces catastrophes ont déjà passé et se sont déjà produites. Mais on n'enregistre pas des dégâts en vie humaine et même matérielle comme chez nous en RDC. Alors, chez nous en RDC, ce qui arrive à ce qu'une fois il y a inondation et catastrophe naturelle, la responsabilité incombe à deux parties. Nous avons d'abord premièrement l'État congolais et deuxièmement la population. L'État congolais ne respecte pas les règles, ne fait pas respecter les règles qu'il a déjà établies en matière d'urbanisme, en matière de construction, en matière d'aménagement du territoire. Nous avons tant de lois, mais l'État congolais ne fait pas le suivi de toutes ces lois-là et décisions. Vous allez voir, c'est lui, l'État congolais, les autorités, qui octroie des permis, qui octroie des espaces, qui vendent en cascade les agents de cadastre, les agents des titres fonciers, je ne sais pas comment, et cela, ça cause beaucoup plus de dégâts à la population. Du point de vue de la population aussi, nous, la population, nous ne sommes pas beaucoup aussi plus, donc nous n'avons pas pitié de nous-mêmes. Souvent, nous, je ne sais pas comment je peux dire, parce que soit on trouve seulement un terrain, on vous propose un terrain, directement vous construisez, vous payez facilement, sans toutefois analyser les dégâts. On a déjà vu, même à Ouvira, il y a 4 ans, les gens construisent à côté de la rivière, à côté du lac, pendant qu'il y a une loi. Si on respecte même les 10 mètres de rive, on ne respecte même pas les 10 mètres de rive tels que voulu par la loi. Et il y a des espaces où les eaux passaient depuis longtemps. Maintenant, quand vous y arrivez, parce que les eaux ont reculé, il y aura des années où les eaux encore vont venir. Maintenant, celui qui va mettre de l'ordre, celui qui va bien orienter la population dans ce domaine-là, c'est l'État congolais. C'est l'État congolais. Mais quand l'État congolais ne dit rien, la population aussi ignorante aussi est là seulement pour prendre les terrains. On le voit, même si chez nous, à Bukavu, à la beauté, venez voir. Vous allez voir la population, les concessionnaires et voisins des eaux. Après, lui, c'est l'eau. Alors, quand il y a inondation, qu'est-ce qu'on va dire? C'est normal. C'est pourquoi nous enregistrons beaucoup de pertes. Mais si on allait respecter, même s'il pouvait y avoir inondation, catastrophe naturelle, même éboulement, on ne pouvait pas enregistrer tous ces dégâts-là matériels et humains. C'est ça, messieurs les journalistes.
Voilà, merci Maître Ouli Mwengu d'avoir appelé depuis Bukavu. Avant de retrouver notre invité, je m'en vais lire quelques deux réactions sur la page Facebook Okapi, parole aux auditeurs, j'allais dire voilà. Il y a cette réaction de Crispin qui nous écrit depuis Kikwit. Vu l'ampleur des dégâts causés, nous mettons notre État devant ses responsabilités à travers le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Lorsqu'en amont rien ne marche, cela se répercute en aval, l'État octroie l'autorisation de bâtir sans savoir où est-ce que la personne va construire. Nos agents du cadastre doivent être réformés et pourquoi pas la création d'une structure ou agence gouvernementale de prévention des catastrophes naturelles. Donc c'est Crispin Kamba Moussambi qui nous a écrit sur la page Facebook Parole aux auditeurs depuis Kikwit. Une autre réaction sur cette même page, c'est celle de Pierre Kassongo. Bonjour à tous depuis Kisangani. Il nous écrit depuis Kisangani. Concernant les inondations dans notre pays, le problème est que le gouvernement doit veiller aux constructions anarchiques des maisons, comme ça se passe dans plusieurs coins du pays. Ensuite, le gouvernement doit prendre en charge cette population et chercher à orienter les élèves dans les autres écoles pour ce qui est des écoles qui ont été détruites. Et comme ici à la Tchopo, pour traverser, ça devient difficile. Voilà, là c'est Pierre Kassongo depuis Kisangani. Alors, on revient à notre invité, le professeur Modeste Kisanga Lamoki, qui est hydroclimatologue. Parce que vous avez suivi les avis des uns des autres par rapport à toutes ces inondations. Comment réagissez-vous?
Merci beaucoup. Je vais commencer par la réaction de Jackson de Kisangani, qui a déploré la non-visite des membres du gouvernement central ni gouvernement provincial au cri d'alarme des populations qui sont en train de vivre les inondations dans leurs maisons, dans des structures de l'État, de l'Église et les hôpitaux, et ainsi de suite. Donc, là, je vais dire que il y a la phrase de Monsieur Francis Bacon qui disait « On ne commande à la nature qu'en lui obéissant ». Donc, les problèmes que tout le monde déplore, c'est les problèmes des inondations. Les inondations, si notre pays était vraiment bien organisé comme en 1960, on avait plusieurs stations hydrométriques le long de tous les cours d'eau. Les Belges ont fait quand même un travail dans son temps. Mais actuellement, on n'en compte plus que quelques-unes des stations qui restent dans des grandes villes. Mais dans des villages, comme c'était dans le temps, ça n'existe plus. Ça va aussi la même chose pour les services météorologiques. Hein? À l'époque coloniale, on comptait plus de 129 stations météorologiques. Mais actuellement, on n'en compte plus que 29. Donc, il y a encore du travail, comme tout le monde demande la responsabilité du gouvernement. Là aussi, je vais demander cette responsabilité du gouvernement, parce qu'un pays qui manque les stations météorologiques, les stations hydrométriques, c'est comme un véhicule qui roule la nuit sans phare. Donc, les dangers peuvent arriver à tout moment. Il faut qu'il y ait des stations qui peuvent nous donner ou nous donner des prévisions. Hein, parce qu'aujourd'hui, nous sommes surpris. 300 pertes en vie humaine, 43 000 maisons inondées, c'est quand même énorme. Et dans les points de contingence, comme dit le monsieur de Kisangani, on ne voit pas la présence des membres du gouvernement. Or, hier, pendant ces temps ici en France, au Pas-de-Calais, il y a aussi des inondations, mais on voit à travers la télé. C'est le gouvernement qui vient sortir les gens des maisons. Non, vous quittez parce que le fleuve vient maintenant occuper son lit majeur. Vous devez vous déplacer d'abord. Voilà. Et il y a aussi la réaction de M. Peter de Kinshasa. Là, moi, j'ai beaucoup aimé.
Mais professeur, avant de vous laisser continuer, merci d'avoir rappelé cela. Et en tout cas, on essaiera de voir à travers le magazine Parler aux auditeurs comment entrer dans ce magazine, parler de cette coordination multisectorielle qui a été instituée pour sauver des vies humaines et assurer la prise en charge holistique de communautés affectées. En tout cas, il y a le ministère de l'Intérieur et Sécurité, il y a le ministère de la Santé publique, de l'Agriculture et Affaires sociales, en tout cas, qui ont constitué cette coordination multisectorielle. On va essayer d'entrer en contact pour savoir un peu où on en est, parce que là, on attend déjà des témoignages pour dire qu'il y a des endroits où des communautés sont affectées, mais jusque-là, il n'y a rien. Puis, il y a également ces lancements, il y a le ministère des Affaires sociales qui avait lancé, en tout cas, la demande de Congolais pour la solidarité nationale à constituer un fonds pour venir en aide à toutes ces familles affectées. On sera d'en savoir un peu davantage où on en est aujourd'hui. Je vous laisse continuer, professeur.
Merci beaucoup. Et la réaction de M. Peter de Kinshasa. Vous voyez les inondations du fleuve. Moi, je qualifie ça d'inondation polie. Parce que ça vient lentement. Ça vous annonce. Moi, je suis à 1 cm. Je suis à 2 cm. Je suis à 3 cm. Je suis à 50 cm. Je suis à 1 mètre, à 2 mètres. Vous devez sortir de la maison. Contrairement aux inondations que nous connaissons, par exemple, des pluies à Kinshasa, qui s'amènent avec des sables qui engloutissent des maisons, qui tuent directement. Donc les inondations du fleuve, c'est une inondation qui est pratiquement polie, mais qui annonce. Mais ce qui nous manque pour faire des prévisions, c'est l'appareillage, les instruments nécessaires à la régie des voies fluviales, n'est-ce pas, pour faire les prévisions pour et demander à la population de quitter des zones qu'ils ont déjà occupées par rapport au lit majeur du fleuve Congo. Alors, qu'est-ce que je peux encore ajouter par rapport à notre ami Olimwengu de Bukavu, et là aussi au bord du lac à côté de Uvira, c'est la même situation. Donc c'est partout dans les pays. Vous venez occuper les lits majeurs. Quand vous occupez les lits majeurs, c'est très dangereux. Et là, moi, je lance un appel au gouvernement. Nous avons le bureau d'études d'aménagement et urbanisme qu'on appelle le BAU.
Oui.
Bureau qui se trouve ici à la première rue. Est-ce que le ministère d'aménagement du territoire, de l'habitat, consulte ce bureau-là pour lotir les gens le long du fleuve, lotir les gens sur les fortes pentes? Parce qu'il y a aussi de ce côté-là, avec les précipitations qui nous provoquent des érosions. Maintenant, nous parlons inondation. Est-ce que les ministères aménagement habitat consultent ces bureaux avant d'aller lotir les gens le long du fleuve? C'est là que moi j'ai dit, après la décrue, c'est le moment de faire l'inventaire, de revoir, consulter ces bureaux. Est-ce que ces bureaux dans son plan, parce que les bureaux-là voient l'aménagement de la République démocratique du Congo, et ainsi que les villes. Est-ce que dans les plans de lotissement de Kinshasa, on a prévu de lotir à Mboudi, on a prévu de lotir le Poul Malebo, Kingabwa, Massina, et ainsi de suite? Voilà des questions qu'on doit se poser pour que, pendant la décrue, qu'on cherche soit à détruire, comme l'a dit M. Peter,
oui,
soit à détruire pour protéger les villes. Vous ne devez pas aller loger les gens ou lotir les gens dans des milieux qui sont hostiles. Et les gens construisent, parce que quand je vois Mboudi, il y a des immeubles. Mais aujourd'hui, inondés. Quand je vois la cité du fleuve, mais moi, je regrette cet investissement. Hein? Les gens ont oublié pendant 61 ans qu'il n'y avait pas un danger qu'on peut construire. Mais voilà, aujourd'hui, l'eau vient récupérer son niveau. Ici, c'est mon lit. Vous devez quitter.
Alors, professeur, vous avez parlé d'une expression intéressante, que c'est des inondations polies, de façon que la crue se faisait déjà annoncer, et puis au fur et à mesure, et puis il y avait le monitoring de la régie des voies fluviales, de la régie des voies fluviales qui n'arrêtait pas d'alerter. Alors, professeur, est-ce que, puisqu'aujourd'hui, on dit que la RDC connaît ses pires inondations depuis 60 ans, et avec tout ce qu'il y a comme phénomène climatique, avec ces changements climatiques, il y a lieu à craindre qu'il ne faut plus encore attendre 60 ans. Ça peut aussi arriver à tout moment, hein, ces genres de phénomènes.
Non, maintenant, on ne va plus attendre 60 ans. Cette récurrence a commencé depuis 2015.
Oui.
La récurrence, maintenant, ce n'est plus 50 ans, 60 ans. Maintenant, ça vient dans les 5 ans, 2 ans, 3 ans. Parce que c'est le phénomène de changement climatique qui amplifie cela.
Exactement.
Il y a des moments où les pluies se déplacent, on ne va pas en recevoir plus chez nous. Il y a des moments où ça rentre, et on en reçoit en grande quantité, et ça crée des dégâts comme aujourd'hui. Les récurrences, dans le temps, c'était de 50 ans, parce que la pluie, plutôt, et les inondations de 61,
Quand nous avons fait les études antérieures, on l'a classé comme inondation entre 50 et 100 ans. Et nous voici aujourd'hui au-delà de 60 ans. Et maintenant, les récurrences, depuis 2015, il y a eu augmentation, mais l'eau n'était pas arrivée jusqu'à 6 mètres, on était à 5 mètres 80, en 2019, on était à 5 mètres 90, et en 2021, on est monté à 6 mètres 10, et aujourd'hui, nous voici, on est déjà à 6 mètres 25. Maintenant, on attend, ce matin, je n'ai pas eu l'information, peut-être qu'on a déjà atteint les 6 mètres 26, les records de 1961. Donc, les périodes de récurrence, on ne va plus attendre 50 ans. Non, maintenant, ça doit se répéter. C'est pourquoi j'ai dit, les membres du gouvernement doivent prendre les mesures nécessaires pour protéger la population. C'est là la mission régalienne d'un gouvernement, c'est de protéger la population. Et on doit protéger la population contre ces catastrophes naturelles. On ne peut pas aller lotir les gens là où c'est un milieu hostile, parce que les fleuves peuvent vous emporter la nuit. Voilà, vous sortez la nuit, vous ne savez pas là où vous êtes allé. Si les courants forts de venir vers chez vous, ça peut vous emporter, vous êtes parti.
Donc, professeur, vous l'avez dit et vous l'avez même rappelé. Vous avez parlé, par exemple, des stations hydrométriques, vous avez parlé des services météorologiques qui ont été négligés dans ce pays. C'est le moment d'essayer de penser à tout cela pour éviter encore de voir encore surgir de pareilles inondations et puis de d'être là pour parler des dégâts causés. Donc, c'est très important que le gouvernement puisse tirer toutes les conséquences. Vous l'avez dit. Il y a cette fois-ci, il y aura récurrence. On va plus attendre 60 ans avec les phénomènes des changements climatiques. Ça peut arriver à n'importe quand, par exemple après 5 ans. Donc, il est grand temps de prendre toutes les mesures qui s'imposent. On va poursuivre avec des auditeurs. Là, Jérémy Momba qui nous appelle depuis Lubumbashi, Marie-Paul Awaki à Kisangani. Jérémy, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour Jérémy.
Oui, bonjour Monsieur Marcel. Hein. Bonjour également à l'invité. Bon, je pense que le sujet, il est très pertinent parce qu'il touche la sacralité, n'est-ce pas, de l'homme. Parce que nous disons que la vie est sacrée, alors il faut pouvoir la préserver. Et tout ça, c'est en anticipant, n'est-ce pas, des circonstances. Nous avons toujours dit que, bon, notre pays, notre gouvernement, d'une manière générale, ne s'attaque plus qu'au, donc ça dit, au lieu de s'attaquer d'abord aux causes, on s'attaque après qu'on a assisté à des circonstances comme nous sommes en train de déplorer. Il faut savoir que notre fleuve n'est pas guéable. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas au Niger, ou soit pendant un temps où vous allez trouver qu'il y a sécheresse. Notre fleuve, il est dit que il garde sa régularité sur le plan mondial. Alors, par conséquent, il faut prendre des dispositions qui s'imposent. Parce que on doit protéger la population. Protéger la population, ça veut dire qu'on doit essayer de s'imposer qui achète la parcelle. Pourquoi il achète tout près, dans les périmètres, tout près du fleuve? Et pourquoi laisser cette affaire et se passer ainsi? J'ai déploré, nous avons constaté autrefois ce qui est arrivé, je ne sais pas, à Kananga, dans les quartiers Bikuku, et on a vu comment est-ce que les gouverneurs étaient dépassés par les événements, en train de chercher directement les secours au niveau du gouvernement central. C'est là que nous disons qu'il faut nécessairement qu'il y ait le programme de rétrocession au vrai sens, pour que réellement les provinces puissent intervenir en cas de problème. On ne doit pas tout le temps aller pleurnicher devant les gouvernements. Il faut nécessairement que les gouvernements, via, n'est-ce pas, les parlementaires, puissent au moins voter réellement dans les sens pour que réellement les provinces puissent se prendre en charge. Sinon, lorsque vous avez un parent qui est éloigné, les problèmes arrivent à un enfant. Qu'est-ce qui va arriver? L'enfant va trépasser. Et il faut prendre des mesures qui s'imposent. Quand vous regardez aujourd'hui, les problèmes des inondations, c'est presque dans le monde entier, c'est devenu un phénomène réel. Il faut pouvoir devancer les événements, c'est-à-dire quoi? Prendre des mesures qui s'imposent et commencer par rappeler au ministère qui est en charge, n'est-ce pas, urbanisme et habitat, pour dire que ne pelotir que on doit tenir compte des normes urbanistiques pour voir qui construit où et pourquoi il le fait et qui lui a donné cet aval-là d'aller construire là-bas. Parce que les conséquences, quand on les paye, c'est tous les pays qui payent les conséquences, y compris les gouvernements. Alors, lorsque la population meurt à tout moment, à tout bout de champ, on dit que bon, la tâche, les problèmes reviennent au gouvernement parce que le gouvernement n'a pas pris des dispositions en compte. Quand vous regardez en dehors de ça, il y a aussi des problèmes, les gens construisent même sous des hautes tensions, ça on ne voit pas. On attend lorsque les circonstances vont arriver, il y aura mort d'homme,
On va maintenant chercher comment organiser, n'est-ce pas, les deuils nationaux.
Mais Jérémy, vous avez également suivi l'intervenant qui a dit, c'est vrai, on est en train d'incomber la faute au gouvernement, notamment pour ce qui est de lotissement, des espaces. Mais il y a un intervenant qui a dit, mais pourquoi pas aussi la population, après avoir observé toutes ces inondations qui ont en tout cas causé des dégâts énormes avec plus de 43 000 maisons écroulées, et surtout également pour ceux qui ont construit les longs de cours d'eau. Et pourquoi lorsque le gouvernement, puisqu'on dit qu'il y a cette faiblesse, on ne respecte pas les normes, et pourquoi la population elle-même ne peut pas se dire que l'endroit qu'on est en train de lotir, c'est pas un endroit et qu'il faut simplement, peut-être qu'il y aura de risques tels que les inondations. La population elle-même aussi, pourquoi elle accepte d'acheter du terrain dans de tels endroits?
Oui, c'est là que nous disons que nous remettons en cause, parce que l'affaire n'est pas seulement dans les camps du gouvernement, l'affaire est pour tout le monde. Alors là, il faut aussi interpeller la population, parce qu'il y en a qui attendent de vivre les conséquences pour commencer à tourner les jeux vers le gouvernement. Là, il faut peut-être, quand je parle ici, il faut pouvoir, ce qu'on appelle donc décentraliser l'affaire. Ça veut dire que, et les chefs de rue, les chefs de quartier, ils doivent mettre la main à la pâte. Et comment faire les choses? Vous regardez ce qui se passe dans des provinces. Nous avons vu les images hier, ce qui s'est passé à l'Équateur. Moi, je me dis, les enfants, vraiment, ils vont mourir. Parce que les matières fréquentes, et les enfants sont exposés à des excréments, et ils nagent là dans les eaux, et nous disons que ça, c'est vraiment une perte que nous sommes en train de voir en gestation. Il faut que nécessairement qu'on puisse prendre des dispositions. Lorsqu'il y a débordement, en temps de crue, on sait que lorsqu'on est pendant la saison des pluies, nous sommes en temps de crue où le fleuve peut doubler, voire tripler. Il faut prendre d'éventer les événements, ça veut dire, et mettre des points sur la table, ça veut dire, et la population, et les gouvernements, y compris toutes les autorités des communs accords, puissent trouver un terrain d'entente, un terrain d'accord pour dire que voilà, on inculque des notions, voilà, telle population, ne faites pas ceci. C'est là que je dis que font les bourgmestres, que font les chefs de quartier pour pouvoir, n'est-ce pas, passer dans chaque rue pour pouvoir sensibiliser la population. Le problème qui se passe dans notre pays, c'est que les gens ne sont pas à l'abri de la bonne communication et de la bonne information. Il faut pouvoir inculquer cette population-là en leur donnant des notions.
Voilà, merci Jérémy Mwamba depuis le Lubumbashi. On va prendre le tout dernier auditeur, c'est Marie Polawa qui nous appelle depuis Kisangani. Bonjour Marie Polawa. Marie Polawa, vous êtes en ligne depuis Kisangani? Marie Polawa n'est plus en ligne depuis Kisangani. Alors on va conclure avec notre invité, le professeur Modeste Kisangala Amoke, qui est hydroclimatologue. Alors professeur, vous avez dit, en tout cas pour l'instant, ce qu'il faut faire, il faut qu'il y ait un plan des contingences pour faire face à toutes ces inondations, notamment pour ce qui est des dégâts causés. On va pas arrêter de le répéter, avec en tout cas le bilan dressé le 5 janvier dernier par le ministère des Affaires sociales. Parler de 300 pertes en vies humaines, plus de 43 000 maisons écroulées et plus de 1300 écoles détruites. À cela s'ajoutent des centres de santé touchés, des marchés publics affectés et certaines routes rendues impraticables. Alors, dans un premier temps, il y a un plan des contingences, mais il faut tirer toutes les conséquences, professeur, et vous l'avez répété. Il y a, par exemple, les stations hydrométriques qui vous avez dit à une certaine époque, il y avait en tout cas ces stations dans plusieurs provinces du pays qui marchaient. Ce n'est plus le cas. On a négligé tout cela. Vous avez dit qu'il faut également voir nos services météorologiques qui doivent jouer un rôle très important avec tout ce qu'il y a comme changement climatique. Mais vous avez parlé aussi du BAU, le Bureau d'études d'aménagement urbain, un bureau. Vous êtes me posé la question si ces bureaux sont souvent consultés pour tout ce qui est d'aménagement urbain de nos villes. Professeur Modeste Kisangala.
Nous allons clôturer parce que les phénomènes d'inondation, les pluies abondantes actuellement, est lié aussi à ce que nous appelons en climatologie le phénomène El Nino. Parce qu'il y a des années à Nina et maintenant nous sommes à une année El Nino, qui apporte beaucoup de précipitations. Et comme je l'ai dit, les récurrences, on ne va plus attendre 50 ans, 100 ans. Maintenant, c'est tous les 3 ans, 5 ans, 2 ans, voire même une année, parce qu'en 61, il y avait 61, 62. N'empêche que ce que nous avons vécu aujourd'hui, en 2024,
2023, 2024, on peut encore avoir un autre épisode qui peut arriver. Donc, le gouvernement devra prendre des dispositions. Prendre des dispositions après la décrue, de faire un bilan. Ce qu'ils ont déjà fait là, c'est à mi-parcours. Mais ils vont faire le vrai bilan après la décrue et prendre des mesures nécessaires pour évacuer les gens dans les lits majeurs du fleuve Congo. Ce que je peux encore demander au gouvernement, c'est de chercher à donner des moyens à la régie des voies fluviales, lui doter des instruments nécessaires pour des mesures hydrométriques à temps réel, doter aussi la Metelsat à des appareils et des mesures pour faire des prévisions à temps réel. On ne devra pas attendre pour agir après les inondations, après les catastrophes. Non, nous devons devancer, comme l'a dit notre ami de Kananga. Il faut devancer les événements. Et si on ne sait pas prévoir, nous allons toujours subir, et ce ne serait pas bon. La mission régalienne du gouvernement, c'est de protéger les populations. Voilà, par là que je
peux. Alors, professeur, vous êtes hydroclimatologue, c'est l'occasion pour nous, professeurs, de profiter. Vous avez évoqué ces phénomènes El Nino à une certaine époque. C'est vrai, on entendait parler de ces phénomènes El Nino. Et aujourd'hui, on sait voir à travers, en tout cas, le monde, dans plusieurs villes, on sait voir qu'il y a des inondations. Et ces phénomènes, professeur, c'est un phénomène qui est cyclique.
C'est cyclique, comme on vient de le dire. Ça arrive à un moment, il y a d'autres moments où ça n'arrive pas, mais maintenant on les lie au phénomène El Nino parce que les quantités de pluie qu'on reçoit en ce moment, c'est énorme. Et là, on les qualifie de phénomène El Nino.
Ah, d'accord. Et vous avez dit également que, en tout cas, pour cette fois-ci, la montée des eaux, c'était une façon à polie. Et il y a aussi une façon à mal polie, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une montée sans qu'il y ait de signes d'alerte.
Bon, là, par rapport au cours d'eau, par rapport au fleuve, là, je l'ai qualifié d'inondation polie. Mais l'inondation impolie qui tue, c'est l'inondation due aux précipitations qui tombent, par exemple, dans une ville, une pluie qui tombe en trombe avec une très grande quantité qui emporte tout du côté des l'amont, et ceux qui sont en aval, ils sont ensevelis sous les sables et les eaux, comme le cas des rivières Makelele. Là, c'est une inondation brutale qu'on a déjà déploré ici, plusieurs cas de morts. Là, c'est une inondation brutale. Mais l'inondation du fleuve, c'est une inondation polie parce que ça vient lentement, calmement, et ça dure pendant très longtemps. Or, l'autre inondation brutale, c'est pendant un court, quelques heures seulement. Une pluie qui peut tomber de 24 heures à 6 heures du matin, mais on va déplorer plusieurs 180 morts, 200 morts, même 500 morts, et ainsi de suite.
Voilà, merci beaucoup professeur Modeste Kisangala-Moké. Je rappelle que vous êtes hydroclimatologue. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci en tout cas de nous avoir éclairé sur entre de vos commentaires scientifiques par rapport à ces sujets sur les inondations observées à travers le pays. On espère vous retrouver prochainement.
Merci beaucoup et merci à tous les auditeurs de la radio au Capi.
Fin de ce numéro, parole aux auditeurs de ces jours. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Paul Badianyama qui est à la mise en onde, à Bléchidani qui l'a réalisé et coordonné. Au micro, c'était Marcel Ngomboba. Au plaisir de vous retrouver prochainement dans un autre numéro de votre magazine des champs citoyens. Parole aux auditeurs. D'ici là, bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous.
Merci d'écouter Radio Okapi, il est 11h à Kibombo dans le Maniema, 10h si vous êtes au quartier Kimbondo dans la périphérie ouest de Kinshasa.
Radio Okapi.
Bonjour et merci de nous recevoir dans le territoire de Beni au Nord Kivu. Ici, nous apprenons que des leaders communautaires et autorités locales de Maïmoya, un village situé à plus ou moins 40 kilomètres de la ville de Beni, ont échangé lundi avec une délégation de la MONUSCO. La situation sécuritaire et la protection des civils étaient au centre des échanges. C'est en prévision de la fermeture prochaine de la base militaire de la mission onusienne dans la zone. Des échanges jugés bénéfiques pour les uns et les autres. André Kitenge revient de Maïmoya. Voici son reportage.
Au moins 60 leaders communautaires, des jeunes et autorités civiles et militaires ont pris part à ces échanges d'une journée. Selon Jean-Pierre Kassere Kamanunga, le secrétaire administratif du groupement de Bambouba Kisiki, la situation sécuritaire dans la zone reste préoccupante.
Le groupement de Bambouba Kisiki en général est trop envahi par les ADF NAL qui sont en train de tuer. Il y a des morts, surtout dans le village de Maïmoya. Nous avons déjà plaidé au niveau de la MONUSCO de doubler la sécurité. Nous avons demandé à ce que les FRD et la MONUSCO puisse faire la mutualisation et de nettoyer la région.
Pour sa part, le président de la société civile de Maïmoya, Yango Bouema, pense que ces échanges leur ont aussi permis de comprendre la mission de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO.
Les échanges nous ont été bénéfiques. On a essayé de comprendre maintenant la mission de FIB avec leur mandat. Ils sont prêts à quitter maintenant la RDC d'ici là, mais avec l'état sécuritaire que nous voyons, il faudrait qu'ils passent